Rien n'est plus commun et rien n'est plus sûr dans l'expérience humaine que la mort. La Bible, le livre de la chrétienté, déclare que la mort est venue dans le monde à cause du péché. Mais qu'est-ce donc que la mort? Y a-t-il espérance de vie après la mort? Voici quelques-unes des questions que nous considérerons dans cette discussion de la Bible, qui est la parole de Dieu. Comme d'habitude, ce sujet sera traité dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces programmes sont diffusés internationalement et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible, qui publie la revue Aurore. Et maintenant, Pierre, es-tu prêt?
Oui, Thomas. La semaine dernière, dans notre étude du chapitre initial de la Genèse, premier livre de la Bible, nous avons appris la vérité au sujet de l'âme humaine, qu'elle n'est pas une entité séparée dans le corps, mais l'être lui-même, ou âme, composée du corps animé par le souffle de la vie.
Et tu sais, Pierre, j'ai cherché dans la Bible et j'ai trouvé que tout le témoignage au sujet de l'âme humaine concorde avec ce que nous avons trouvé dans le texte où il en est question pour la première fois. Ceci, naturellement, doit bien en être le cas, car autrement, nous devrions conclure que la Bible se contredit.
Alors, veux-tu ouvrir la Bible au deuxième chapitre de la Genèse, versets 16 et 17?
Oui, Pierre. J'ai ma Bible ouverte à ce chapitre, et au verset 16 et 17, je lis. Et l'Éternel Dieu dit à l'homme, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin. » Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Pierre, si je m'en souviens bien, c'est la première fois qu'il est parlé de la mort dans la Bible, n'est-ce pas?
Oui, Thomas. En effet, Dieu établit clairement que l'humanité ferait l'expérience de la mort comme conséquence de la désobéissance à sa loi.
La mort n'est donc pas une amie, et n'est pas un portail pour entrer dans une autre vie. Elle n'est pas une transition d'une forme de vie à une autre, mais exactement ce que le Seigneur déclare, la punition divine pour une désobéissance à sa loi.
C'est ainsi que les premiers chapitres de la Bible présentent la mort.
Eh bien, c'est très intéressant, et cela révèle les dispositions divines. Mais Pierre, quelle est l'origine de toutes les autres idées concernant la mort?
Le livre de la Genèse répond aussi à cette question. Je te propose de prendre le troisième chapitre et d'y lire les quatre premiers versets.
Avec plaisir, Pierre. Voici ce qui y est dit. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Eh bien, Pierre, c'est une contradiction flagrante de ce que le Seigneur dit à ce sujet. Mais qui est le serpent pour qu'il sache plus que Dieu?
Dans le tout dernier livre de la Bible, cet adversaire de Dieu est nommé ce vieux serpent, le diable ou Satan. Il est sans importance de savoir si le diable parla par le serpent ou si le serpent fut envoyé pour symboliser le diable. Ce qui est important, c'est de reconnaître le fait qu'il contredit ce que Dieu dit au sujet de la mort.
Et la contradiction est directe, Pierre. Le Seigneur dit « Tu mourras certainement ». Et le diable dit, « Tu ne mourras nullement. »
Exactement. Et vois-tu, Thomas, ces deux points de vue se sont opposés dans l'esprit des hommes depuis lors jusqu'à maintenant.
Mais Pierre, je ne peux pas voir comment il fut possible au diable de tromper les gens quand l'engeance de la mort se voit partout.
Je suis content que tu aies employé le mot « tromperie », car c'est ce qui s'est passé. Toutes les fois que c'est possible, on amène les gens à croire que ce qu'ils appellent la mort n'est pas une réalité, que personne ne meurt réellement. Qu'il n'y a pas de mort, soutenant ainsi l'affirmation première de Satan à notre mère Ève, « Tu ne mourras nullement. »
Ou en d'autres termes, c'est seulement en apparence que l'on meurt.
C'est de cette façon qu'on l'a interprété plus tard.
Mais Pierre, je ne peux pas voir encore comment il fut possible au diable de tromper ainsi le monde, quand la preuve de la mort les entoure de toutes parts.
C'est difficile à comprendre. Cependant, la tromperie ne se développa pas soudainement. Elle grandit graduellement et fut aidée par l'aversion terrible de l'homme pour la mort. La mort est la plus grande ennemie de l'homme, et les gens aimeraient se persuader qu'elle n'est pas réelle, que de quelque mystérieuse façon, la vie continue quand la personne meurt.
Ce serait une pensée réconfortante. Et Pierre, est-ce de cette insistance à déclarer que la mort ne peut être ce qu'elle est, que la théorie de l'âme immortelle s'est développée?
Je le crois. Des centaines de fois, la Bible parle de l'âme, et comme nous avons appris la semaine dernière que l'âme est l'être réel et qu'elle meurt quand l'être meurt, il n'était peut-être pas trop difficile de supposer que l'âme pouvait être dans le corps humain quelque chose qui continue à vivre après que le corps est mort. Comme je l'ai dit, l'idée prit forme peu à peu. Elle est née du très profond désir des gens d'avoir une consolation, un réconfort dans l'heure du chagrin de la séparation.
Mais naturellement, l'affirmation de la Bible demeure. La mort est une réalité, donc la punition pour le péché est réelle. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Cependant, Pierre, il me vient une autre idée. L'acceptation de l'idée que la mort n'est qu'une porte ouverte à une autre vie conduit à des considérations qui n'étaient pas aussi réconfortantes.
Oui, en effet. Alors qu'on admet généralement que tous les justes passent dans une vie meilleure, plus heureuse à leur mort, on n'a pas présenté une perspective aussi brillante pour les pécheurs. Et c'est de là que viennent les enseignements de la souffrance en enfer comme punition du péché au lieu de la mort.
Mais Pierre, la Bible enseigne bien qu'il y a un enfer.
Oui, c'est vrai. Et Thomas, il est très intéressant de se rendre compte que cet aspect de la vérité est aussi placé par Dieu dans le premier livre de sa parole, la Genèse.
Eh bien, je ne me suis pas aperçu que le mot « enfer » apparaît dans la Genèse. Veux-tu indiquer le chapitre?
Notre mot « enfer » ne paraît pas dans la Genèse, mais le mot « Sheol », qui est traduit par « enfer » dans d'autres passages de la Bible, apparaît au verset 35 du chapitre 37.
Il faut que je m'y reporte. Tu as dit verset 35, chapitre 37.
Oui, mais avant que tu lises ce texte, je te rappellerai brièvement les circonstances. Jacob est celui qui emploie le mot « Sheol » ou « enfer » dans ce texte. Il avait un fils bien-aimé, Joseph, qui fut vendu comme esclave en Égypte par ses frères aînés. Désirant cacher leur crime à leur père, ils tuèrent un bouc, en répandirent le sang sur la robe de Joseph et l'étalèrent devant leur père, Jacob, pour faire croire à ce dernier que les bêtes sauvages l'avaient tué. Croyant alors que son fils était mort, il le pleura amèrement, déplorant la mort de ce fils bien-aimé et se lamentant. Veux-tu lire une partie de ce texte, Thomas?
Certainement, Pierre. Tes explications serviront à rendre ce texte plus compréhensible. Il est écrit « Et tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa d'être consolé et leur dit « Je descendrai en pleurant vers mon fils au sépulcre. » C'est ainsi que son père le pleura. Et c'est le mot « sépulcre » dans ce texte qui est traduit de l'hébreu « Sheol », n'est-ce pas?
C'est cela. En soi, cela ne serait pas particulièrement significatif si ce n'était le fait que le mot hébreu « Sheol », qui veut dire « sépulcre », est le seul enfer de l'Ancien Testament.
En d'autres termes, « Sheol » est l'enfer de l'Ancien Testament, donc le sépulcre.
C'est exact. Et je pense que c'est merveilleux que dans le premier usage de ce mot, nous apprenions tant de choses au sujet de la mort.
Par exemple?
Eh bien, d'abord que Jacob était un bon serviteur de Dieu. Joseph aussi. Jacob supposait que Joseph était mort, et c'est pour cela qu'il parle de lui comme étant dans le Sheol, l'enfer de la Bible. Jacob exprime aussi l'idée qu'il ira en enfer à sa mort.
Autrement dit, l'enfer de la Bible est un endroit ou une condition où les justes aussi bien que les méchants vont à leur mort. Mais Pierre, quelle est cette condition?
C'est la condition de la mort. Jacob, vois-tu, s'en tint à l'affirmation que Dieu fit dans le jardin d'Éden. Tu mourras certainement. Il savait que la mort était une réalité, et il décrivit la condition de la mort par le mot « Sheol ».
Et le premier emploi du mot « Sheol », l'enfer de la Bible, devrait nous guider pour comprendre ce sujet chaque fois qu'il est mentionné dans la parole de Dieu. Certainement, c'est une bonne chose que de comprendre dès le début tous les enseignements importants de la Bible. Nous avons appris ce qu'est une âme et aussi que la punition du péché, c'est la mort. Et nous avons appris la vérité sur l'enfer. Mais Pierre, où en sommes-nous quant à l'espoir d'une vie au-delà de la tombe? La Bible ne laisse sûrement pas la race humaine dans la mort.
Certainement pas. La tragédie du péché et de la mort citée dans la Genèse est une base de la vérité exposée dans la Bible pour démontrer la nécessité de l'intervention du Créateur pour sauver la race humaine du péché et met l'accent sur son amour quand il conçoit un plan de salut aussi glorieux. Le bienveillant plan de Dieu pour la régénération de la créature humaine en le sauvant de la mort, voilà le grand sujet harmonieux de la Bible.
Et cette régénération de la mort se fera par une résurrection d'entre les morts.
Oui. Et ainsi, tandis que la mort est une réalité, elle n'est pas la fin pour toujours. Elle n'est, pour ainsi dire, qu'un long sommeil dont il y aura un réveil. Mais ce sujet sera traité en détail dans le petit livre « La création de l'homme et sa destinée finale ». Thomas, veux-tu dire à nos amis comment ils peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la revue Aurore où cet article est exposé ?
Certainement, Pierre, très volontiers. Amis, cet article dans la revue Aurore présente une suite d'études des premiers livres de la Bible, éclairant particulièrement les grandes vérités de base du christianisme. Elles sont introduites dans le livre de la Genèse par ces sujets. Qu'est-ce qu'une âme humaine ? Est-elle mortelle ou immortelle ? Qu'est-ce que la mort ? Est-elle réelle ou simplement un passage vers une autre vie ? Quel est l'enfer de la Bible ? Et qui sont ceux qui y vont quand ils meurent ? Quelle est l'espérance d'une vie après la mort ? Elle nous est clairement présentée dans la Bible. Ce sont des questions auxquelles nous désirons tous trouver des réponses précises. L'article de « La création de l'homme et sa destinée finale » présente la réponse de la Bible. Demandez tout de suite votre exemplaire gratuit. Demandez l'article sur la destinée. Simplement, demandez destinée. Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette émission vous est offerte par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, voulez-vous, et que Dieu vous bénisse tous.